Hatha Yoga, Vinyasa Yoga.
Alors, mon premier placard. Alors, ça, c'est le placard du petit-déj. Donc, ouais. Déjà, c'est tout faux.
Strala Yoga. Mudo Yoga.
Soyez heureux, lâchez prise, faites-vous du bien. Vous êtes la solution. Autant d'injonctions qui semblent nous narguer quotidiennement. Dans notre époque hyper connectée, les médias nous montrent leur image du bonheur, glamour et souriant, en nous incitant parfois à rejoindre le monde merveilleux des magazines de papier glacé. Selon le Centre National du Livre, le secteur dit du développement personnel génère dans les librairies un chiffre d'affaires annuel de 53 millions d'euros. Le yoga, ou plutôt les yogas, puisque le yoga se pratique désormais de multiples façons, fédère en France plus de 3 millions d'adeptes. Les expériences de méditation, collectives ou non, réunissent de plus en plus de passionnés. Les salles de sport, où on vous invite à dépasser vos limites, proposent d'innombrables variantes des exercices de gym et de musculation. Tout ça est animé par des entraîneurs, des maîtres, des coachs, dont l'objectif est de nous aider à nous améliorer. Il en existe dans tous les domaines, du coach sportif classique ou pas, au plus inattendu coach alimentaire, évidemment plus à la mode que le traditionnel diététicien. La grande majorité des pratiquants, évidemment, y trouve son compte et se sent bien mieux.
Je suis partisan du bien-être, simplement j'attire l'attention. Sous cette dénomination sympathique se cachent de redoutables charlatans qui peuvent être des prédateurs.
Mais cette explosion du développement personnel n'évite pas certaines dérives. Elle dit aussi quelque chose de notre société. Les individus y sont prêts à presque tout pour se lancer dans la quête éperdue du bonheur, ou à défaut de son ersatz, le bien-être. Déjà diffusé en juin 2018 pour Vivre Heureux, Vivons Coachés, c'est un reportage de Romain Masson avec Nicolas Mathias à la prise de son.
France Inter, Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Encore, encore, maintenant on veut gagner. C'est la toute dernière, on veut passer devant les autres. Je finis ça tout de suite pour entrer. Faut tenir encore 15 secondes. Encore, 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 on continue, on continue. C'est pas fini ?
Ah si, si.
Ok, maintenant c'est fini.
On est à l'usine, une salle de sport haut de gamme, dans un quartier chic de la capitale. On y a rendez-vous avec Jean-Christophe Blin, un célèbre coach sportif.
Moi, je suis issu, en fait, c'est vrai, d'un milieu de la musculation depuis très jeune, puisque je m'y suis mis à 14 ans. Ça a découlé sur la compétition de bodybuilding et j'ai eu un titre de champion de France, donc en 2006, en moins de 85 kilos. Je suis arrivé à l'usine, en fait, en 2005, à l'ouverture de l'usine. Donc j'ai commencé comme coach. Vous savez, quand on passe plusieurs heures par semaine avec les mêmes clients, on est souvent très proches, on partage aussi des efforts. Les clients forcément se confient. Même si le coach n'est pas là pour ça, forcément avec de l'empathie, on doit se donner un rôle de confident pour que les choses aillent bien et que son client se sente le mieux possible. On est là aussi pour ça.
Si vous rêvez d'un cours de tablette ou de TRX dans une ambiance new-yorkaise, c'est ici que ça se passe.
L'engouement pour le coaching, en fait, on se rend compte que en France, il c'est vrai qu'il devient beaucoup plus populaire. On se rend compte aussi que il y a quand même un engouement pour le sport. Donc les gens ont besoin de faire du sport, ont envie de faire du sport. Et c'est vrai que parfois, ça passe aussi par le fait d'avoir un coach qui va être là pour préserver cette motivation. Et on parle aussi de sport à très haute intensité. Donc par exemple, on a le HIIT. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du HIIT. Le High Intensity Interval Training. Donc là où en fait on va mener la fréquence cardiaque très élevée associée à du renfort musculaire, du renforcement musculaire. Le CrossFit par exemple, donc on va en fait essayer de travailler sur toutes les qualités physiques. Les qualités physiques, c'est quoi? C'est la force, c'est l'endurance, c'est la vitesse, c'est l'explosivité, c'est la souplesse, c'est l'agilité. Voilà. Après, ce qu'on peut rencontrer comme excessif, comme gens excessifs, c'est tout simplement l'excès de sport. On a l'impression aujourd'hui que plus on va en faire, et mieux ça va être. C'est faux, puisque le corps aussi a besoin de repos. Enfin, c'est pas rare de voir des clients donc, qui prennent du coaching et qui veulent absolument faire 5 à 6 séances de coaching par semaine, plus leur cardio à côté, plus des abdominaux le matin, plus... Il y a un moment donné où il faut les réveiller un petit peu en disant mais c'est pas ça qui va créer le résultat. C'est, donc là, on va travailler plutôt l'aspect psychologique plutôt que l'aspect physique. Hein. Parce que là, on va vers des gens qui vont se blesser. Mais l'autre excès aussi, c'est parce que le sport fait du bien. Aller courir provoque, on le sait tous, donc une sécrétion d'endorphines qui vont créer cette espèce de bien-être. Et puis le sport est aussi un anti-stress, permet aussi de se vider la tête, de se concentrer vraiment sur l'activité en elle-même. Et donc de déconnecter en fait de sa vie professionnelle, de sa vie familiale et sociale, de se retrouver uniquement avec soi-même dans sa bulle. Et ça peut être aussi addictif.
Vos affaires de sport qui vous attendent toutes propres dans votre vestiaire pour la séance suivante, c'est possible.
Annie, on commence l'échauffement. Donc tu prends les petits haltères comme d'habitude. Donc tu fais les extensions de bras, voilà, fléchis un tout petit peu tes jambes. Voilà, tu penses à bien marquer ta respiration, tu souffles en montant tes mains.
Travailler avec Jean-Christophe Blin pour essayer de se dépasser au niveau mental et physique. Ce qui est très important, c'est que c'est quelqu'un voilà, qui le fait avec calme, détermination, qui est très posé, qui est en même temps délicat, qui est parfaitement à l'écoute. Et en même temps, il n'y a aucune négociation possible. Et donc, il est, comment dire, il évalue de manière juste le dépassement nécessaire à chacun. Et de fait, on est obligé de se dépasser parce qu'on a face à soi quelqu'un qui a cette détermination et cette bienveillance. Donc de fait, on n'a pas d'échappatoire, on ne peut pas négocier, et la bienveillance fait qu'on a envie de lui donner le meilleur de soi-même. Et ça, c'est sa qualité.
Est-ce que vous avez le sentiment, là, à l'instant, d'être dans une quête de bien-être ?
Total, c'est-à-dire qu'en fait, parfaitement bien, calme, détendu, sans pensée négative, sans euphorie non plus particulière, ni quoi que ce soit. Et pour donner un exemple, une fois j'étais arrivée avec une très mauvaise nouvelle, comme il peut arriver dans la vie, et il m'a dit on va faire une séance détox. Je me suis dit tiens, pourtant je le connais bien, qu'est-ce qu'une séance détox ? Et donc il m'a fait travailler effectivement de manière intense, en circuit, répété 5 fois, et à la fin de la séance, très sincèrement, et je ne suis pas facilement influençable du tout, cet événement grave et difficile, qui n'est pas non plus quelque chose qui relève d'une tragédie, était remis à sa juste place. Et je suis sortie de la séance calme, posée, détendue, et ça a duré jusqu'à la fin de la journée, le lendemain. Donc ça, c'est très précieux. Et je dois avouer que je ne pensais pas qu'une séance puisse... apporter autant d'apaisement, donc de bien-être physique, mental, et j'ai envie de dire aussi par sa bienveillance au niveau du cœur.
Ok, tu te redresses. Allez, tu vas faire maintenant des circonductions, des grands cercles avec tes bras, voilà, d'avant en arrière, la mobilité, l'amplitude. On travaille beaucoup sur l'articulation des épaules.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
Allez, maintenant dans l'autre sens. Quelques-unes. Très bien, allez, tu me donnes les haltères. On va faire quelques squats pour réchauffer les genoux.
On arrive chez Claire Mizzi, qui est instructrice de méditation MBSR, et on va assister à une séance de méditation.
Commencez par prendre une grande inspiration et vous installer dans votre assise. Le MBSR, ça veut dire Mindfulness Based Stress Reduction Program. C'est un programme de méditation de pleine conscience, de réduction du stress par la méditation de pleine conscience, qui a été mis en place par un chercheur en médecine moléculaire qui s'appelle Jon Kabat-Zinn, qui est américain, qui était méditant, qui était aussi professeur de yoga et puis qui faisait de la recherche et qui a trouvé que cette pratique avait un grand intérêt et avait été très transformateur pour lui-même et puis pour ses proches, a eu l'idée d'amener cette pratique de façon plus laïque. Et son idée, c'était de l'amener de façon beaucoup plus accessible à tous et plus universelle, dans le sens où ne pas le relier à une spiritualité, après chacun met ce qu'il veut derrière, mais de proposer la pratique de la méditation comme un entraînement mental. Porter l'attention sur le dos, vertical, en équilibre, qui permet la présence. Sentez vos épaules ouvertes. Ce protocole, il se déploie en 8 séances, plus une journée complète de pratique méditative. Chaque séance va avoir une intention, un thème, et au sein de chaque séance, il va y avoir un temps de pratique de la méditation et puis d'échange avec les personnes du groupe. C'est tout l'intérêt du groupe et de cette façon-là d'avancer dans la pratique, c'est-à-dire on pratique et puis échanger sur l'expérience de chacun. Pendant ces séances-là, il y a aussi des petites expériences pour nous connecter à nous-mêmes, comprendre le thème abordé de la séance. Donc au début, on entraîne beaucoup son attention à se connecter au corps, à tourner l'attention en nous-mêmes, à développer aussi une connexion corps-esprit par un exercice qu'on appelle le body scan, et puis amener son attention sur la respiration. Alors ça, c'est de l'attention focalisée. Ensuite, on va vers des attentions plus diffuses où on va aller doucement vers des pratiques d'ouverture à tout le corps, aux sensations qu'on peut avoir, aux sons, aux pensées. Et puis, des choses autour de la notion du stress. Qu'est-ce que le stress? Comment ça envahit notre corps? Et comment est-ce que ça peut être un signal pour nous dire ce qui se passe en nous? Et portez maintenant votre attention sur l'ouverture des poumons à l'inspire et puis les poumons qui se centrent à l'expire. Pour moi, le sens de la méditation, c'est une meilleure connaissance de soi, c'est se relier sur quoi on veut avancer, qu'est-ce qu'on veut transmettre, dans l'objectif de se tourner vers le monde, c'est-à-dire d'être plus calme avec soi-même, de mieux se connaître pour ensuite, après, avoir de l'espace et du temps à donner autour de nous. Et tout ça amène à un apprivoisement et une compréhension de ce que peut être la méditation. On a tendance à vouloir tout de suite se connecter aux choses, à la sérénité et tout, mais en fait, ça va être une traversée comme un voyage, hein. C'est-à-dire on peut regarder les photos du voyage et tout est joli, mais le voyage, on va avoir trop chaud, froid, il va y avoir des moustiques. La méditation, on va traverser des tas de moments émotionnels, on va se rendre compte de comment on se relie aux événements de notre vie. Et puis aussi prendre conscience que on profite pas forcément suffisamment des choses agréables. Parfois, la meilleure connaissance de soi, c'est d'apprendre à faire avec nos difficultés, nos douleurs. Il y a des gens qui ont des douleurs chroniques, il y a des gens qui ont des difficultés psychiques qui vont pas se transformer. Mais l'objectif, c'est de pouvoir non pas les juger, non pas se critiquer sans vouloir être quelqu'un d'autre, mais de se relier à qui on est, à ce qu'on traverse, quelle est notre histoire, quelle est notre hérédité, et puis faire avec et avancer dans la vie avec ça, quoi. Puis doucement, vous allez vous préparer à sortir de ce temps de pratique au son du bol. Et commencez à accueillir l'air, la lumière à travers vos paupières, à bouger doucement. Reprendre contact avec la pièce, avec chacun d'entre nous.
Le toucher guérisseur.
Running thérapie.
Leçon de danse, leçon de vie.
Les bonnes postures.
Ma bible du yoga santé.
Acro-yoga.
Émotions, enquête et mode d'emploi.
Sexualité féminine.
Votre vie en couleur.
Fabrice Midal. Danser.
Le yoga de la
voix.
Dictionnaire de médecine énergétique chinoise de A à Z.
Le féminin sauvage.
Le livre de l'ikigai.
La médecine traditionnelle chinoise pour les nuls.
Guérison par le son.
Soulager votre mal de dos
le
sans médicaments.
Pour les nuls.
L'œuf de yoni.
Vos trois super pouvoirs.
La méthode japonaise pour vivre
le
sans temps.
Sauts.
Le féminin sauvage.
L'art de vivre à la japonaise.
Le guide des bains de forêt.
Bonjour Stéphanie Ricordel.
Bonjour.
Vous êtes responsable éditoriale des éditions Erol.
C'est ça.
Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement les éditions Erol?
Alors, les éditions Erol, c'est une maison qui publie essentiellement des ouvrages pratiques, des ouvrages techniques et des ouvrages pour le grand public. Voilà. On a commencé à publier des livres de développement personnel chez Erol dans les années 2000, qui étaient un peu particuliers parce qu'ils étaient destinés à un public en entreprise. Donc, il s'agissait de mieux négocier, de mieux communiquer avec ses collaborateurs, de mieux gérer les conflits. Il y avait un intérêt fort pour ces livres de développement personnel dans la sphère professionnelle et petit à petit, ça a contaminé la sphère privée. Gérer son conjoint, gérer ses enfants, gérer ses voisins. La promesse de ces livres, c'est être heureux avec à peu près les mêmes méthodes ou les mêmes grands messages. C'est ce qui tire le chiffre d'affaires de la maison, c'est certain.
Avoir confiance en soi.
Pour diminuer votre peur face à un événement quelconque, la seule chose que vous ayez à faire est d'avoir confiance en vous. J'insiste beaucoup sur ce point parce qu'il me paraît essentiel. À partir de maintenant, chaque fois que vous sentirez la peur monter en vous et vous nouer l'estomac, souvenez-vous que c'est simplement parce que vous manquez de confiance en vous.
Le livre de développement personnel, aujourd'hui, c'est devenu comme un accessoire. Comme quand on s'achète une tenue pour se sentir plus beau, plus fort, plus neuf. Aujourd'hui, on s'achète un livre de développement personnel, voilà, quand on a un passage à vide et puis ça va mieux. On peut avoir, ça a été le cas sur la confiance en soi, sur le lâcher prise, sur la méditation, 10 livres sur le même thème et les ventes sont toujours aussi importantes.
Est-ce que c'est un nouvel ordre moral ?
Il s'agit effectivement de penser sa vie comme un projet avec une progression, des étapes et surtout la notion de performance en fait. Ce sont des livres qui reflètent quelque chose qui est à l'œuvre dans notre société aujourd'hui, qui est le refoulement systématique du négatif en fait. C'est une façon aussi finalement de fuir le négatif, de se rassurer sur soi-même et sur sa capacité à changer, de s'illusionner peut-être sur un changement possible. On commence à percevoir l'arrivée de nouvelles méthodes qui s'inspirent de spiritualités diverses. Et donc l'avenir du développement personnel, ce sera peut-être de se transformer en développement spirituel. On a vu apparaître ça à partir de l'intérêt pour la méditation zen et le bouddhisme, par exemple. Donc, mais de plus en plus de livres mêlent les deux, c'est-à-dire qu'on est sur un développement personnel de moins en moins cartésien et de plus en plus, entre guillemets, ésotérique. Et l'individu, le lecteur, voilà, fait confiance à des forces occultes ou s'ouvre à quelque chose qui serait transcendant et qui dirigerait sa vie. On a ça, par exemple, dans la loi d'attraction. Voilà, les livres sur la loi d'attraction se vendent bien, intéressent beaucoup nos lecteurs.
Quand on prie la bonne étoile, la faible secoue son voile et vient t'accorder ce qu'on a demandé.
Hélène, on y va ?
Oui.
Allez.
Essayez, faites un...
Bonjour.
Car
vous étiez assisté à l'atelier, par la visite.
Oui, alors donc j'avais vu que c'était les portes ouvertes. Et ce qui m'intéresse déjà, c'est un peu de visiter, de voir le lieu, en fait, l'endroit. La salle, l'ambiance, l'énergie. Et puis j'ai repéré, oui, quelques ateliers qui m'intéressent. Alors, c'était les massages énergétiques, l'ostéopathie et la réflexologie plantaire.
D'accord.
Eh bien, écoutez, c'est une excellente opportunité pour commencer. Moi, j'aime découvrir tout ce qui existe, tout ce qui est nouveau, que ce soit les activités, les lieux, les centres, les gens. J'y vais, je teste. Donc aujourd'hui, j'avais vu déjà depuis quelques mois que ce centre allait ouvrir. Je guettais la date d'ouverture et je me suis inscrite tout de suite sur la page pour les journées portes ouvertes, qui était une approche que j'avais pas encore vue à Paris, qui est une approche assez complète, qui est vraiment axée sur le physique et aussi le mental, l'énergétique, le social, le psychologique. Voilà, donc c'était une approche complète. Ça m'intéressait de voir comment est-ce qu'il comptait la développer en fait.
Zumba, Strong by Zumba, Yes Coach, Fight Move, Piloxing, Air Jump, Jump Only, Jump Fit, I Miss You Train, Yako, Radical Fitness, You Bound, I Love Ma Peau Cotelin, Booty Therapy.
En essayant plein de choses comme ça, j'ai l'impression, moi, dans mon quotidien, de vivre plein d'expériences différentes,
et de, voilà, d'avoir une vie pleine et riche, en fait.
Donc c'est un peu un adage, ça pourrait être être bien avec soi-même et être bien avec les autres.
Avec les autres, oui, bien sûr, parce qu'en plus, ben, tous ces sports, ça provoque des endorphines. Hein. Moi, je sais que si je ne vais pas au sport pendant 2 jours, je ne suis pas bien, hein, clairement. Donc oui, c'est assez, pour moi, c'est assez addictif. La pratique sportive en tant que telle l'est. Et puis le fait de rencontrer des gens, de parler avec, avec les gens, de ce qui les fait vibrer eux, en fait, hein. Les profs, les praticiens, la plupart sont vraiment des gens passionnés, convaincus de ce qu'ils font. Donc c'est toujours enrichissant pour progresser soi dans ça. Alors c'est ça part du sport, mais ensuite évidemment on va parler d'alimentation, de rythme de vie, de chrononutrition, de à quelle heure faire son sport dans la journée pour que ça apporte le plus de bien-être et voilà. Donc c'est tout un univers en plus qui est autour de la pratique sportive.
Mais alors, est-ce que c'est pas une injonction au bonheur et à la perfection, cette course effrénée à travers toutes ces activités ?
Alors, ben, je dirais que pas forcément, parce que le fait de faire plein d'activités différentes, c'est impossible d'être excellent dans une activité. Le fait de multiplier les découvertes, on peut pas être bon partout. Donc, on va être plus sur avoir un niveau qui nous permette de suivre les cours et de nous amuser. Et d'en retirer des bénéfices, mais sans être forcément dans la performance. Si je faisais que du running, que du crossfit, peut-être que du yoga d'ailleurs, hein, qui est à la base pas conçu pour la performance, mais qui aujourd'hui c'est beaucoup de formes de yoga où on est dans la performance quand même, ne serait-ce qu'à voir sur les réseaux sociaux, hein, toutes les filles et les hommes d'ailleurs, hein, qui postent des photos d'eux dans des postures incroyables, ça quand même, ça incite aussi à la performance. Mais en essayant plein de choses, voilà, c'est plutôt l'ouverture qu'on cherche plutôt que la performance. Alors après, le bonheur de chacun passe. Pour moi, ça va être de voir plein de découvrir plein de pratiques. Cette découverte m'apporte à chaque fois beaucoup de choses. Pour d'autres, ça va être de choisir une discipline et cette discipline de la pratiquer à fond, effectivement, pour être le plus performant possible.
C'est quoi les risques ?
Alors le risque, c'est de ne plus réussir à se passer de ces sports et de ces découvertes, et finalement de se dire mince, là je vois tout ce qui m'empêche de faire ça comme une contrainte. Donc je vais avoir de la famille qui va venir chez moi pendant le week-end, je vais stresser parce que je vais pas pouvoir faire mon planning de sport, ma routine ou mes activités à découvrir comme j'avais envie de le faire. Donc je vais en concevoir de la frustration. Si le soir on me dit il y a un dîner avec des copains, viens, c'est sympa, je vais me dire bah oui, mais moi j'ai mon yoga. Donc après c'est des choix, c'est des renoncements et c'est de la gestion d'une certaine forme de frustration en fait.
Si ces pratiques sont le plus souvent synonymes de bien-être, il arrive aussi parfois que des personnes expérimentent de nouvelles voies qui tournent mal. Et c'est ici qu'intervient la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la MIVILUD. Aujourd'hui, 40% des signalements concernent le développement d'offres trompeuses et de dérives dans le domaine de la santé et du bien-être. Bonjour Lise.
Bonjour.
Lise, vous avez été victime d'une naturopathe.
Oui, alors en fait, c'était donc à peu près il y a un an et demi. Voilà, j'étais un peu fatiguée, voilà, je voulais être en meilleure forme. Par le biais d'Internet, j'ai choisi d'aller voir une naturopathe qui semblait avoir une bonne réputation. Elle avait fait des vidéos. Je ne comptais pas aller voir le premier venu, en fait. Donc, elle m'a reçue chez elle. Elle a utilisé un appareil qu'on appelle le LigoScan. Et en fait, donc, c'est un appareil qu'elle met sur la main qui donne ensuite un relevé de toutes les carences en vitamines, minéraux qu'on a. Donc, c'est relié à un ordinateur. Et en fait, avec ça, elle se basait sur ça pour ensuite prescrire toute une liste de compléments alimentaires et de vitamines pour pallier ces carences, en fait. Moi, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Ça m'a coûté dans plusieurs milliers d'euros de compléments alimentaires, sans compter la séance qui était à plus de 200 euros quand même, qui durait à peu près une heure et demie. Donc j'ai commencé à suivre son protocole, parce qu'elle m'a fait tout un protocole avec tous les compléments que je devais prendre à tel moment de la journée. Et très rapidement, au bout d'une ou deux semaines, j'ai commencé à me sentir vraiment mal, donc à perdre des cheveux, à être très fatiguée, dépressive. Et elle m'a dit, c'est normal, c'est parce que le corps va d'abord plus mal avant d'aller mieux. Donc je lui ai fait confiance, Donc je suis retournée la voir lors d'un deuxième rendez-vous. Donc elle m'a refait l'examen avec l'appareil. Et de nouveau, elle m'a represcrit toute une quantité de compléments alimentaires avec détox à faire qui était très fatigante. Et donc, mon état a continué de s'empirer, en fait. Et là, je me suis dit, j'ai eu à un moment donné, je lui ai plus fait confiance, en fait. Et je l'ai recontactée, je lui ai dit que j'étais vraiment très, très mal. Et elle m'a proposé, du coup, de me faire des injections. Des injections de compléments alimentaires en intraveineuse. Donc, en fait, ce qui est interdit. Parce que normalement, seuls les médecins... les infirmières et les médecins, je crois, peuvent faire ça. Enfin, en tout cas, elle n'était pas du tout habilitée à le faire. Donc moi, je ne savais pas. Hein. Je me suis encore... Je voulais aller mieux. J'étais mal, donc j'ai accepté. Ça coûtait très cher, en fait. Ça coûtait 100 euros l'injection. Donc elle m'a fait plusieurs injections pendant une dizaine de jours. Et ça n'allait toujours pas mieux. Donc là, vraiment, je lui ai dit que ce n'était pas possible et que j'allais prendre un avis médical ailleurs. Et là, elle a commencé, je pense, à avoir un peu peur. Elle m'a dit, ben non... Enfin... Elle a eu peur, mais en même temps, elle continuait de me dire que c'était normal. Voilà. C'est là que j'ai arrêté d'aller la voir et que j'ai pris conscience que quelque chose n'allait vraiment pas, en fait.
À quel moment est-ce que vous prévenez la mibilule ?
Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, mais les injections qu'elle m'a faites, et si je pense qu'elle n'a peut-être pas le droit de me les faire. Donc en fait, je suis allée à l'ordre des pharmaciens d'abord. C'est eux qui m'ont dit qu'elle avait fait partie de l'ordre des pharmaciens, mais qu'elle n'en faisait plus partie, et qu'effectivement, faire des injections... en intraveineuse, c'était un exercice illégal de la médecine. Et en fait, la conclusion que je tire, c'est que ben, tout le monde... Enfin, je pense qu'on peut vraiment se faire avoir facilement. Parce que c'est vrai que, aussi, c'est un moment où j'avais beaucoup de doutes. Et elle savait me réconforter, me redonner confiance. Donc, je pense que ça... Je suis peut-être un peu dans un moment de faiblesse. Et ce qui a fait que j'ai... peut-être été plus vulnérable par rapport à ça. Mais je pense que on peut très facilement tomber là-dedans. Très facilement.
On arrive à la mission interministérielle de lutte contre les pratiques sectaires. Et on va rencontrer Serge Biscot, son président.
Vous venez chercher.
Bonjour Monsieur Biscot.
Bonjour, vous allez bien,
Monsieur le Président.
Bonjour. Dans le temps, on pouvait rentrer, mais maintenant, vous voyez, c'est sécurité maximum.
Bonjour.
Les personnes
ont
rendez-vous à 10h30. Ils sont avec vous ? Oui, oui. Ok, ça marche. Voilà.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Je suis partisan du bien-être. Je dis simplement qu'en tant que président de la Mibilude, j'attire l'attention sous cette dénomination sympathique. Se cachent des escrocs et de redoutables charlatans qui peuvent être des prédateurs. Nous sommes aujourd'hui véritablement envahis de charlatans, de faux médecins, de praticiens, y compris diplômés malheureusement, qui pratiquent des thérapies, des soins, des traitements, des pratiques non validées, certaines d'ailleurs dangereuses parce qu'elles coupent le patient qui vient les consulter, souvent désemparé, effrayé par une annonce de maladie lourde. Et à ce moment-là, il tombe dans les griffes de personnes peu scrupuleuses qui ne font pas le bon diagnostic, qui les dissuadent d'aller voir des équipes médicales compétentes et qui, finalement, prennent le pouvoir sur elles pour des raisons qui sont le plus souvent financières.
Et comment expliquez-vous la multiplication des signalements auprès de la Mivilude ?
Nous avons entre 2500 et 3000 signalements par an, donc une petite dizaine par jour. Mais ce qui est frappant, c'est de constater que, par exemple, la santé, il y a 7 ou 8 ans, c'était 20% de 2500, c'est-à-dire 500. Aujourd'hui, on est à plus de 40%, on dépasse les 1000. Alors, c'est aussi bien, il faut peut-être insister là-dessus, ce que j'appellerais la santé physique, que quand une personne a une maladie lourde, grave, ou craint une maladie lourde ou invalidante, mais aussi bien la santé psychologique. C'est là qu'on arrive dans ce domaine très flou du bien-être, où un certain nombre de personnes peu scrupuleuses développent des théories sur les raisons du mal-être d'une personne, ses échecs dans sa vie personnelle, professionnelle, familiale, prennent une emprise sur cette personne et l'entraînent en général dans des processus qui sont extrêmement longs, lourds, coûteux et surtout inefficaces quand ils ne sont pas dangereux. Alors, quelques exemples de doctrines absurdes. Par exemple, de ne rien cuire. Le crudivorisme. Nous avons un j'allais dire un gourou, hein, qui s'est lancé là-dedans, avec évidemment le concours de YouTube, etc., de vidéos qui sont quasiment quotidiennes. Hein. Y a des théories, il y a des brochures, il y a des tutos, etc., sur Internet, ça, bien évidemment. Bon. Et en même temps, qui va vous vendre un extracteur de fruits et légumes très très cher, extracteur banal que vous trouvez dans le marché, sur le marché, pour quelques dizaines d'euros, et qui, eux, sera vendu plusieurs centaines d'euros. Donc on a là un exemple d'une théorie au profit d'une quasi-prédation financière. On n'est pas vraiment dans le domaine des produits de santé, où là, il y a un contrôle officiel du ministère de la Santé, et donc c'est quand même des failles qu'ils exploitent largement. Dernier point, une doctrine absurde, le respirianisme. Là, vous ne nous nourrissez de rien, peut-être un peu d'eau, et de particules qui existent dans l'air, de prana. Alors là, on est vraiment dans le... On a comme ça de temps en temps sur YouTube l'apparition d'un jeune homme et d'une jeune fille aux joues bien rebondies qui n'y sont pas mangées depuis plusieurs années. Ce qui me frappe, c'est que plusieurs dizaines de personnes, plusieurs centaines même à l'échelon européen, croient ces sottises, se mettent à faire des jeûnes incontrôlés. Nous avons eu récemment une personne qui est décédée, une dame qui n'était pas en bonne santé et qui est décédée dans un CHU du nord de la France après un jeûne très mal supporté au bout du 9e jour, je crois.
Comment ne pas devenir paranoïaque face à l'essor de justement du
ce ben, c'est pour ça que vous avez cité le nom de notre mission interministérielle, elle s'appelle Vigilance. Quand quelqu'un nous demande un avis sur une méthode, sur un praticien, sur un centre pseudo-médical, nous sommes ravis de lui donner avant qu'il n'y aille et qu'il ne se fasse, entraîner dans une spirale dangereuse.
Comment vous appréhendez le numérique et en particulier YouTube ?
Nous sommes passés dans un stade de verticalité, c'est peut-être bien, où la parole du magistère, du médecin, du grand professeur, de l'universitaire, était peu contestée, ou pas du tout contestée, en tout cas incontestable. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase, grâce au numérique, d'horizontalité. La parole du professeur a le même volume, il a beau mettre ses titres, que la parole du patient qui dit « j'ai pris votre traitement, monsieur le professeur, ou le traitement que vous préconisez ne fait rien du tout, je vous préconise, le charbon végétal, c'est beaucoup mieux que votre chimiothérapie ». Bon, que voulez-vous que nous fassions ? Nous ne pouvons que demander au ministère de la Santé, mais comme à d'autres ministères, de développer une information claire, accessible, un contre-discours par rapport aux théories complotistes, ça, je crois que c'est bien pris en compte par le gouvernement, et puis de comprendre aussi ce phénomène.
Un dernier point, est-ce qu'il existe un portrait type de personnes abusées dans le secteur du bien-être et du développement personnel ?
Oui, ben, je vous l'ai dit, c'est souvent des gens en difficulté à un moment ou un autre, dans leur vie familiale, professionnelle, dans leur vie personnelle aussi, santé, etc. Il y a aussi un type de difficultés qui sont plus collectives. Je pense en particulier à ces coachs qui prolifèrent de façon inconsidérée auprès des grandes entreprises, des grandes sociétés. Tous ces coachs sont là pour remotiver les troupes. C'est vraiment très souvent d'ailleurs totalement inepte et ne sert qu'à redémobiliser ou à mettre dans des angoisses terribles un certain nombre de personnes. Ce qui me paraît toujours le moteur principal de tout ça, c'est comme l'argent. On vous dit un stage de 8 jours, un stage de 3 jours, une méthode, des vidéos que vous allez pouvoir passer chez vous, etc. Et ça va vous coûter 3000 euros. Ceci dit, si vous signez tout de suite, ça vous coûtera que 2400, quoi. Bon, écoutez, je pense qu'on est quand même là dans un monde où l'appât du gain est prédominant et que ce ne sont pas des gens, comment dire, désintéressés et qui se demandent comment aider leurs concitoyens.
Qu'est-ce que vous inspire, à vous, peut-être à titre d'ailleurs plus personnel, si vous le souhaitez, l'engouement aujourd'hui pour le bien-être et le développement personnel en France en général ?
Bah, écoutez, pourquoi pas ? Moi, je suis partisan du bien-être.
Interception sur France Inter.
Enchanté.
Est-ce que vous pouvez juste nous raconter brièvement ici où on va et ce qu'on va faire ?
Oui, alors donc on va rencontrer une personne qui me suit dans ma communauté mais qui n'a jamais acheté mes programmes. Donc c'est-à-dire qu'elle a envie de manger mieux et de faire du sport mais peut-être qu'elle s'y est pas encore vraiment mise. Donc on va la rencontrer chez elle et on va aller visiter ses placards, ce qui est très drôle.
Oui, Héloïse ?
Oui ?
Oui, bonjour, c'est Lucille Woodward.
Bonjour.
Bonjour, on est juste en bas de chez vous, je pense qu'on est dans la cour, donc on arrive.
D'accord, écoutez,
faut me sonner
pour que je
vous ouvre. Ok, ça marche,
à tout de suite.
Bonjour.
Bonjour, Héloïse.
Oui.
Bonjour, Lucie.
Enchantée.
Enchantée.
On va regarder le frigo, mais aussi le congèle.
On peut y aller.
Alors, oh, frigo très bien rempli.
Oui, mais tout est rempli chez moi.
Alors, première chose, plein de produits laitiers.
Oui, mais pas que.
Oui. Les produits laitiers sont pas du tout nécessaires à la santé de l'homme. La vache donne du lait pour le veau et pas pour l'homme. Il y a beaucoup d'hormones de croissance beaucoup aussi de facteurs favorisant les maladies cardiovasculaires dans les produits laitiers, clairement. Je vous déconseille complètement. J'en vois beaucoup quand même des produits laitiers. Voilà. Après, vous avez acheté un yaourt fabriqué avec du lait de coco.
Ouais, des yaourts végétaux.
C'est bien ça.
J'aime bien.
Ce qui est intéressant dans le yaourt, c'est pas forcément les ingrédients qu'il y a dedans. Le plus important, c'est les probiotiques, c'est toutes les bactéries en fait qu'il y a dedans, qui vont favoriser le développement d'une bonne flore bactérienne. Mais au final, les fibres d'une alimentation équilibrée, très très riche en fruits et en légumes et en céréales complètes comme vous avez, ça va encore mieux favoriser l'installation d'une bonne flore et du coup d'une bonne digestion et du coup d'une bonne lutte contre l'obésité et le surpoids. Donc ça, pourquoi pas, si vous aimez bien, des yaourts au lait de coco. Après, le lait de coco, au final, c'est pratiquement aussi mauvais pour les maladies cardiovasculaires que le beurre. Alors ensuite, qu'est-ce que je vois? Je vois quand même des jus d'orange. Je vois des jus d'orange industriels. Donc ça, c'est la bombe de sucre. Plus beaucoup de vitamines. Il y a très peu de fibres dedans, puisque ça a été pressé. Donc, on n'a plus tous les fibres de quand on croque le fruit. Et en fait, c'est marrant, il y a beaucoup d'études scientifiques qui se sont intéressées justement à l'intérêt des smoothies ou des jus comme ça par rapport à des vrais fruits. Et finalement, c'est toujours les vrais fruits qui gagnent.
Ah bah,
donc,
oui, c'est
mieux conseiller des vrais fruits. Et tu vois, par exemple, ça, c'est quand même un petit peu industriel. C'est un paquet de crudités mélangées.
Et c'est pour les soirs où j'ai pas le temps.
Mais c'est très bien. Alors c'est forcément, tout le monde va dire oui, mais il y a quand même de l'emballage, du plastique. Oui, mais on est dans une vraie vie.
C'est ça. C'est que il y a les soirs où j'ai juste pas envie, où je suis juste fatiguée, et du coup c'est facile. Et au moins je mange pas n'importe quoi.
Ouais, ouais. Donc par exemple ça, du chou déjà émincé, des radis déjà préparés. Oui, d'accord. Bon, c'est vrai que ça fait quand même du plastique, mais malgré tout, c'est mieux que de manger des chips.
Ah ben, c'est sûr.
Après, il y a des belles tomates, il y a du chou-fleur, du concombre, des courgettes. Alors, par contre, ça, non. Ça, c'est de l'ultra transformé, donc ultra industriel. On ne sait pas du tout d'où proviennent les produits. Regarde derrière, tu regardes, il y a que 38% de chair de poisson.
Ouais, ouais, non.
C'est donc, c'est minoritaire. C'est-à-dire que 62% de ce produit,
c'est autre chose.
C'est autre chose. Donc, il y a de l'eau, de l'amidon, de l'huile de colza, du lait, du sucre en cinquième ingrédient, du sel, des arômes, des colorants. Poubelle. Alors ensuite, je vois quand même pas mal de fromage. Il y a du fromage 0% pour se donner bonne conscience.
Pour donner du goût.
Alors, il y a pas mal de charcuterie. On n'a pas besoin de manger de la protéine de chair animale tous les jours. Mmh. Pas du tout. L'être humain, il n'a pas du tout besoin. Mmh. Ça va pas faciliter une digestion. Par exemple, ça, les pâtes à la carbonara le soir, ça va pas faciliter une bonne énergie pour le lendemain et tout ça. Donc ça, vraiment avec ultra, ultra modération. J'aide les gens à se faire du bien sans se faire de mal. C'est vraiment mon mantra. C'est-à-dire que je les aide à bien faire du sport sans se faire mal et à mieux manger pour se sentir mieux au quotidien. En fait, moi, je suis coach depuis plus de 10 ans maintenant et je me suis vraiment rendu compte que les gens, en matière de bien-être, sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour aller mieux. Et surtout n'importe quoi, en fait.
Votre activité est devenue au fil du temps une entreprise ?
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous décrire aujourd'hui cette entreprise ?
Donc c'est une entreprise en fait qui vend surtout des programmes d'entraînement sportif et alimentaire sur le web. C'est ce qui me fait vivre et ce qui m'anime le plus et ce que je préfère. Et je travaille aussi parfois avec des marques pour qui je collabore en création de contenu. Donc soit des conseils sportifs ou bien des conseils alimentaires ou bien de la formation.
Vous êtes présente plutôt où ?
Je suis présente partout et en fait, c'est devenu un peu un nouveau métier hein, d'être influenceur sur les réseaux sociaux. Et du coup, il faut être présent partout. Il ne faut pas privilégier un média plutôt qu'un autre. Donc, je suis présente aussi bien sur Facebook que Instagram, YouTube, Pinterest aussi. Et j'ai un blog.
Quel est le profil type des personnes qui vous suivent et qui font appel à vos services de coaching alimentaire?
Alors, sur les réseaux sociaux, on a accès à des statistiques très précises et on peut savoir vraiment très précisément qui nous suit. Et c'est marrant parce que sur chaque réseau social, on a un peu une différence. On doit trouver sa façon de communiquer par réseau social. Donc, moi, les personnes qui me suivent, c'est généralement des femmes, à plus de 80%. Ce sont des personnes généralement qui vivent dans des grandes villes, qui travaillent et qui sont dans couple ou ont des familles ou proches de la réalisation d'une famille.
Comment vous expliquez votre succès?
Alors, j'ai un succès, mais je le trouve pas non plus ultra flagrant. Il y a des filles qui sont plus à succès que moi. J'ai la vraie vie des vrais gens. Et ça, je pense que ça a créé une adhésion et une sorte de fidélisation des personnes qui me suivent. Parce que moi aussi, j'ai deux enfants, j'ai un mari anglais qui adore la malbouffe et je fais pas non plus 20 heures de sport par semaine, je peux pas. J'ai 37 ans, donc voilà, je suis aussi concernée par des problèmes de bien vieillir, d'être en forme sur le long terme. Donc je pense que c'est aussi pour ça que les gens s'intéressent à ce que je fais. Je pense que c'est ça aussi qui fait que ça marche. Bon, c'est pas mal. Bon. Sur une note de 1 à 10, je te mettrais 7, tu vois. Donc, ça c'est va. Quand même pas mal. Je mets pas souvent des bonnes notes. Non, c'est bien. Non, mais c'est bien. Mais si tu continues comme ça et que peut-être, tu vois, les produits laitiers, tu diminues un peu, à mon avis, ça va plus, tu vas décoller.
Je vais essayer, alors.
Parce que là, en fait, de ce que tu m'as dit, je vois surtout les produits laitiers. Et après, les desserts quand tu sors le soir.
C'est ça.
Choisir plutôt entrée plat que plat dessert. C'est pas mal, ça, ouais. Ça marche super bien, hein, ouais, prendre dessert. Surtout si tu bois un verre de vin, en fait.
Ouais, c'est ça.
Un ou deux verres de vin, ça équivaut à un dessert.
Ouais, donc déjà... Donc,
tu vois, tu choisis, quoi.
Faut choisir.
Nicolas Marquis est sociologue et professeur à l'Université Saint-Louis de Bruxelles. Il est l'auteur du livre « Du bien-être à la société du malaise » aux éditions des Presses universitaires de France.
Mieux vivre avec soi et avec les autres, c'est un adage qui est effectivement fondamental au développement personnel et qui pour moi témoigne de cette vision de l'homme qui est complètement rousseauiste. Une anthropologie qui prétend qu'au fin fond de chaque individu ne se trouve que du bon. Et que donc, notre boulot et notre devoir d'individu par rapport à nous-mêmes, c'est de chercher à rejoindre ce bon qui se trouve à l'intérieur de nous, parce qu'une fois que nous aurons réussi à faire ça, rien de mauvais ne pourra nous arriver. Si des individus sont mauvais, si des individus adoptent des comportements problématiques, c'est forcément l'environnement, l'éducation, la société qui les ont conduits à adopter cela. Donc, c'est pour ça que dans ce domaine, une figure qui monte en puissance, c'est celle du coach. Le coach, c'est un individu qui a une position qui est relativement différente de celle du médecin classique ou du thérapeute classique. Et ça signe une transformation qui est relativement importante, c'est qu'aujourd'hui, ce qui légitime le fait d'intervenir sur autrui, c'est moins les capitaux classiques tels que la formation ou tels que le diplôme ou tels que la blouse blanche, mais c'est beaucoup plus l'expérience personnelle. Et la figure du coach, elle s'inscrit complètement dans cette logique-là. Le coach, c'est pas quelqu'un qui est au-dessus de vous et qui vous regarde de façon un petit peu condescendante, c'est quelqu'un qui est à côté de vous. C'est quelqu'un qui vous met la main sur l'épaule, qui va vous aider à débloquer les ressources que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus en phase avec la représentation de l'individu comme étant un trésor de ressources inexplorées.
Nicolas Marquis, y a-t-il du religieux dans le développement personnel ?
Oui, je dirais qu'il y a une fonction religieuse à deux égards. Il y a d'abord une fonction religieuse dans le fait d'expliquer le malheur, de donner du sens au malheur. Le développement personnel permet d'évacuer complètement les schèmes du hasard. Et donc plutôt que d'attendre, comme dans des religions monothéistes, l'intervention d'un au-delà, vous avez à agir. Mais c'est également religieux dans un deuxième sens. Le développement personnel, c'est une sorte de ressource culturelle pour arriver à vivre, qui permet à nous, individus, qui n'avons pas des buts fixés dès notre naissance, comme ça a pu être le cas dans d'autres sociétés, de tenter de répondre à des questions de pourquoi suis-je là, pourquoi suis-je en train de vivre la vie que je vis, est-ce que ma vie vaut la peine d'être vécue. Et on peut considérer que le développement personnel a cette particularité, je pense, d'avoir du mal à accepter le tragique de notre existence. Et je voudrais terminer par cette évocation. J'ai remarqué dans ma petite ville, on organisait des conférences sur être acteur de sa vieillesse et de sa mort. Alors, évidemment, c'est assez intéressant, mais ça veut dire que le phénomène qui est parmi ceux qui dépendent le moins de nous, à savoir le fait que nous sommes des êtres finis et que nous allons mourir, peut être lui aussi traduit par le développement personnel comme étant l'objet d'un projet, comme étant l'objet de quelque chose que l'on a choisi. Et ça me fait penser au travail d'un psychanalyste qui s'appelle André Green, qui expliquait que nous nous centrons beaucoup trop sur les capacités positives aujourd'hui dans notre société. Et il montrait, ou en tout cas il discutait du fait que les capacités négatives étaient également aussi importantes pour notre équilibre moral et psychique. Et les capacités négatives, ce sont des choses que l'on apprend, mais que l'on apprend peut-être de moins en moins quand on est enfant, s'ennuyer, se perdre et être mal à l'aise. Et c'est vrai que le développement personnel ne fait plus aucune place à ce type de capacité-là. Non, l'ennui, c'est du temps perdu. Et quand bien même vous prenez un moment d'intériorité pour vous, vous n'avez pas à vous ennuyer. Vous êtes en train de vous développer. Vous êtes en train de vous construire en tant que projet. Or, ces capacités négatives, on peut se demander si une vie sans elles est vraiment une vie qui vaut la peine d'être vécue.
Pour vivre heureux, vivons coachés, c'était un reportage de Romain Masson, déjà diffusé en juin 2018. Prise de son Nicolas Mathias, mixage Jean-Philippe Jeanne, réalisation Michel Soulier, assisté de Stéphane Combe. Be happy et à la semaine prochaine.